Mister PIB et Mister Chômage, une relation fusionnelle. La quantité de richesse que nous produisons chaque année est comme un gâteau que nous nous partageons. La taille du gâteau, mesurée en euros, la somme des valeurs ajoutées, correspond à la somme des revenus, salaires, bénéfices, loyers, intérêts, et à la somme des dépenses, investissements, consommation, des agents économiques, les trois définitions du PIB. Comment peut-on alors promettre un emploi à ceux qui n'en trouvent pas, tout en garantissant à ceux qui en ont un qu'ils conserveront leur part du gâteau, maintien de leur pouvoir d'achat? C'est tout simplement impossible sans croissance. En effet, les chômeurs nouvellement employés vont, par leur travail, participer à l'augmentation de la taille du gâteau, produire des nouvelles richesses. Si vous souhaitez que le gâteau n'augmente pas en taille, pas de croissance économique, alors les emplois et le pouvoir d'achat que vous promettez aux chômeurs ne peuvent pas être créés. Si les chômeurs nouvellement employés obtiennent une part de gâteau plus importante, plus de pouvoir d'achat, alors le reste de la population doit nécessairement obtenir une part moins importante, baisse du pouvoir d'achat. Quoi que vous fassiez, vous ne parviendrez pas à satisfaire tout le monde. Si la croissance se stabilise, voire se réduit, alors les concessions seront de mise. Le nouveau pouvoir d'achat de ceux que l'on estime comme méritant davantage devra venir de la réduction du pouvoir d'achat des autres. C'est d'ailleurs sans doute en grande partie pour cela que la croissance du PIB est devenue l'objectif de nos démocraties modernes. Quoi de mieux que la promesse d'une hausse du pouvoir d'achat de tous, sans concession ni remise en cause du mode de vie de quiconque, pour garantir la paix sociale? Mister PIB aime la spéculation. Qu'est-ce que la spéculation? Il s'agit d'une méthode d'enrichissement qui, plutôt que de se baser sur la création de nouvelles richesses, cherche à tirer profit de la prise de valeur d'anciennes richesses. S'il est vrai que la plupart des biens perdent de la valeur avec le temps, ce n'est pas le cas des biens immobiliers et des produits financiers, et, à une plus petite échelle, des œuvres d'art et des objets de collection. Il est donc possible d'acheter l'un de ces biens et de le revendre en réalisant un bénéfice. Mieux, pour les entreprises immobilières et financières, il n'y a même pas besoin de revendre le bien pour pouvoir enregistrer un bénéfice. Mister PIB mesure des richesses qui n'existent pas. Je m'explique. Imaginez 15 appartements identiques et neufs dont les propriétaires ont fait l'acquisition en échange de 150 000 euros. Également, partons du principe qu'une entreprise spécialisée dans la gestion de biens immobiliers en ait acheté 10 et que les 5 autres aient été achetés par des particuliers. La valeur des appartements que possède l'entreprise est de 150 000 euros x 10 égale 1 500 000 euros. Maintenant, imaginez qu'un des particuliers réussisse à vendre son appartement pour 200 000 euros. Alors qu'un seul appartement vient de changer de main, c'est la valeur des 15 appartements qui vient d'augmenter, car, comme sur les marchés financiers, c'est la valeur de la dernière transaction que l'on utilise pour valoriser un stock. Il s'agit d'une norme comptable que l'on appelle « mark to market » ou « valeur de marché ». Autrement dit, l'entreprise vient de réaliser un bénéfice comptable. Le stock de 10 appartements valant 150 000 euros x 10, 1 500 000 euros, vaut désormais 200 000 euros x 10, 2 millions d'euros, soit un gain comptable de 500 000 euros. Parce qu'une transaction de 200 000 euros a eu lieu, un profit de 500 000 euros vient d'apparaître sur le bilan comptable de l'entreprise. Bénéfice que l'entreprise va déclarer et utiliser. Rendez-vous au deuxième chapitre de la quatrième et dernière partie de ce livre audio sur les bénéfices comptables et la monétisation de ces derniers, pour payer les salaires et les primes de ses employés, ainsi que les dividendes de ses actionnaires. Il s'agit donc bien de 500 000 euros de PIB qui viennent s'ajouter à l'iconique compteur de richesse. Cela dit, où est la richesse créée? Nulle part. Les 500 000 euros ne correspondent pas à de nouveaux appartements qui auraient été construits, mais simplement à une abstraction comptable. C'est la règle qui oblige l'entreprise à mesurer la valeur de son stock via le prix de la dernière transaction qui matérialise une richesse fictive de 500 000 euros. quand les bénéfices enregistrés ne correspondent pas aux services rendus. Ce type d'exemple, qui peut se reproduire à l'identique avec des produits financiers, montre bien que le PIB enregistre en partie des richesses qui ne correspondent à rien. Les hausses de prix déclenchent des hausses de valorisation de stocks de vieilles richesses qui, par des mécaniques comptables, provoquent l'apparition de bénéfices fictifs pourtant enregistrés dans le PIB. Autrement dit, l'évaluation des stocks des entreprises de gestion immobilière et financière fausse complètement le calcul du PIB. Cependant, cela ne veut pas dire que les entreprises de gestion immobilière et financière ne fournissent pas de services. Cela veut simplement dire que la mesure des services qu'elles fournissent ne correspond pas à leurs bénéfices comptables, alors que ce sont pourtant ces bénéfices que le PIB enregistre comme richesse créée. En effet, quels sont les services rendus par les entreprises qui s'occupent de la gestion de parcs immobiliers? Elles entretiennent les différents biens sous gestion et les louent afin qu'ils soient toujours occupés. Nous avons donc bien affaire à un véritable service d'entretien et de mise à disposition de richesses existantes. Cependant, comment la valeur de ces services devrait-elle être mesurée? Par le biais de la somme des loyers perçus. Or, si ces loyers entrent bien dans le calcul des bénéfices de ces entreprises, la valeur de la variation de stock, prix du stock en fin d'année moins prix du stock en début d'année, en fait également partie, ce qui, nous l'avons vu, fausse totalement le calcul. Vous vous dites sûrement que j'oublie de mentionner le cas des entreprises financières. Pas d'entretien ni de location dans leur cas. Entretien non, mais location si. N'avez-vous jamais entendu parler de la vente de produits financiers à découvert? Néanmoins, vous avez raison. Les entreprises financières fournissent principalement des services de financement et de liquidité. L'explication de ce que sont ces services fera l'objet d'une partie dédiée au fonctionnement des marchés financiers. Vous pouvez cependant d'ores et déjà retenir que, comme les entreprises de gestion immobilière et pour les mêmes raisons d'évaluation de stock, les bénéfices des entreprises financières ne correspondent pas aux services qu'elles rendent. Quand le PIB spéculatif est financé par la planche à billets. Il y a un aspect de mon exemple immobilier que nous n'avons pas abordé. Si les 500 000 euros de bénéfices comptables enregistrés par l'entreprise ne correspondent à aucune richesse, ce qui fausse le calcul du PIB, que peut-on dire du bénéfice de 50 000 euros enregistré par le particulier qui a vendu son appartement? Cette somme est-elle bien associée à une création de richesse? On a tendance à croire que la monnaie, promesse de mise à disposition de billets, associée à une transaction, ne peut venir que du compte d'un autre agent économique, particulier, entreprise ou État, qui l'a lui-même gagné via des revenus connectés au PIB, revenus du capital ou du travail. Or, cela pourrait être le cas si le câblage de nos économies ressemblait à la mécanique suivante. Les 200 000 euros sont injectés dans le moteur de l'économie, le marché du neuf, et déclenchent l'augmentation du PIB alors qu'une nouvelle richesse est créée. La monnaie, promesse de mise à disposition de billets, doit faire tout un tour de circuit avant d'atteindre le marché de l'occasion. Pouvoir d'achat et richesse produite sont intimement liés. Or, la véritable mécanique de l'économie ressemble plutôt à cela. L'origine des injections monétaires finance aléatoirement les marchés du neuf et de l'occasion. Les 200 000 euros peuvent financer une hausse de prix sans qu'aucune richesse n'ait été créée. Puisqu'une planche à promesses des banques de dépôt est utilisée en grande partie pour financer des achats immobiliers d'occasion, le pouvoir d'achat immédiatement disponible dans l'économie ne correspond pas forcément à la quantité de richesse produite, PIB. Cela signifie que la monnaie qui a servi à acheter l'appartement de mon exemple peut tout à fait venir de la planche à promesses des banques. En d'autres termes, la quantité de pouvoir d'achat immédiatement disponible dans l'économie, la quantité de monnaie en circulation, ne correspond pas forcément à la véritable activité économique, création de richesses. Qu'est-ce que cela signifie ? Que les prix de l'immobilier et des actifs financiers peuvent être totalement déconnectés du moteur économique. Comme les dépenses permettant les achats immobiliers et les achats de produits financiers peuvent être financées en plus des revenus issus de la création de richesses, par de la nouvelle monnaie, alors les agents économiques, particuliers, entreprises et États, peuvent financer des achats à des prix démesurés qui n'ont rien à voir avec leurs revenus réels, ceux qui sont liés aux richesses créées, au PIB. Cela veut-il dire que les prix de l'immobilier ou des actifs financiers ne devraient pas monter? Non, les actifs financiers sont connectés à des entreprises qui, par l'augmentation de leur part de marché, de leurs innovations, de leurs recrutements, créent de plus en plus de richesses, ce qui justifie l'augmentation de leur valeur. La justification de la hausse des prix de l'immobilier est beaucoup plus difficile. A priori, n'importe quelle marchandise devrait perdre de la valeur en vieillissant parce que son intégrité physique se dégrade. Un bien immobilier devrait suivre la même logique. Mais pour des raisons de manque de place, de villes plus dynamiques que d'autres, de manque de nouvelles constructions et de biais cognitifs divers, les agents économiques persistent à être persuadés que l'immobilier est une valeur qui ne peut que grimper. L'attrait du PIB spéculatif. Cependant, ne peut-on pas dire qu'une injection de nouvelles monnaies, même si elle a lieu en plein cœur du marché de l'occasion, qui ne crée pas de richesse, va circuler dans la tuyauterie économique jusqu'à finir par faire tourner le véritable moteur de la croissance, le marché du neuf. C'est une possibilité, mais il n'y a aucune certitude. La monnaie pourrait faire plusieurs tours sur le marché de l'occasion sans jamais atteindre celui du neuf. Nous verrons un peu plus tard que ce type de mécanisme provoque des bulles spéculatives qui sont dangereuses. De plus, les bénéfices comptables théoriques du marché de l'occasion, beaucoup plus faciles à obtenir que les véritables bénéfices du marché du neuf, vont avoir tendance à attirer les épargnants, les financiers et les banques créatrices de monnaie, comme un pot de confiture attire les guêpes. Pourquoi ? Reprenons mon exemple. Les 200 000 euros dépensés, le particulier qui vend son appartement, ont provoqué la hausse de valeur de 15 appartements. Le bénéfice théorique est de 15 fois 200 000 moins 150 000 égale 750 000 euros. En effet, s'il est vrai que seul le bénéfice théorique de l'entreprise, qui doit tenir à jour son bilan comptable, participe à la hausse du PIB, il n'empêche que tous les particuliers ont aussi l'impression de s'être enrichis. Celui qui a vendu son appartement constate un bénéfice réel de 50 000 euros, la promesse de mise à disposition de billets est présente sur son compte, l'entreprise déclare un bénéfice de 500 000 euros et les quatre autres particuliers ont l'impression d'être plus riches car ils ont tous en tête que s'ils décidaient de vendre, ils réaliseraient chacun un bénéfice de 50 000 euros. En réalité, rien ne garantit que le prochain acheteur d'appartement soit prêt à payer 200 000 euros. D'ailleurs, si les quatre particuliers se décidaient à vendre leur appartement en même temps, le prix risquerait de chuter. Autrement dit, une seule dépense de 200 000 euros a provoqué un enrichissement réel de 50 000 euros, le particulier qui a vendu son appartement, et une impression d'enrichissement de 700 000 euros, 500 000 euros plus 4 fois 50 000. Or, ici, pas besoin de se lancer dans la difficile et longue construction de nouveaux appartements pour profiter de cet apparent enrichissement. Il suffit de se porter acquéreur d'un bien existant et d'attendre que le prix monte. La dynamique est encore plus vraie et plus simple lorsqu'il s'agit de produits financiers, mais nous en parlerons plus tard. Pas étonnant donc que les marchés immobiliers et financiers attirent tant de monnaie à eux. Les impressions de gains sont démultipliées par la méthode de valorisation des stocks. Tout le monde a l'impression de s'enrichir. Et les professionnels du secteur s'enrichissent véritablement, puisque les salaires, les primes et les dividendes sont effectivement payés à partir des bénéfices théoriques comptables. Le PIB s'en retrouve complètement faussé et une partie de la croissance est spéculative. On récapitule sur la croissance. Le PIB est la somme des revenus, salaires, loyers, intérêts, bénéfices, balance commerciale, ainsi que la somme des dépenses, consommation, investissement, balance commerciale, ce qui est supposé mesurer la valeur des richesses créées dans l'année, valeur ajoutée, par l'ensemble des agents économiques, particuliers, entreprises et États, présents sur le territoire national. Cela dit, le PIB est très loin, mais alors vraiment très loin, d'être un indicateur complet. La mesure de la croissance est loin d'être évidente. Tout d'abord, la mesure de la richesse par le PIB prête à confusion. Ce dernier ne distingue pas les flux de richesses qui s'accumulent des flux de richesses qui servent à entretenir des anciennes richesses accumulées, des flux de richesses énergétiques desquels dépend l'ensemble des activités humaines, des flux de richesses correspondant à des services indispensables pour le maintien de notre santé et de notre confort minimal, des autres flux de richesses associés à des services dont on pourrait se passer. En d'autres termes, comme le PIB mélange richesse à produire en continu, richesse d'entretien, richesse stockable et richesse futile, on ne sait plus très bien si une diminution du PIB correspond effectivement à un simple ralentissement de l'enrichissement ou à un véritable appauvrissement de la société. De plus, comme le PIB utilise des prix fixés sur un marché de l'offre, difficulté de production par unité, et de la demande, envie et besoin, pour mesurer les richesses, il ne mesure pas la valeur d'usage de ces dernières, leur utilité, mais leur valeur d'échange. Ainsi, la richesse telle que la mesure le marché est très particulière. Elle place la valeur de l'or au-dessus de celle de l'eau potable, celle d'une tour de bureau au-dessus de celle de logement HLM, celle du travail d'un publicitaire au-dessus de celle du travail d'un agriculteur. De même, toutes les richesses qui échappent au marché, les ressources environnementales et les services gratuits, ne sont pas du tout comptabilisées. Voilà pourquoi la production de bombes génère plus de richesses que les Restos du Cœur. Pourquoi détruire l'Amazonie pour fabriquer des meubles participe au PIB. Pourquoi l'épuisement des ressources minières de la planète et la destruction des écosystèmes ne déclenchent aucune alarme. Ajoutez à cela les bénéfices spéculatifs des entreprises financières et immobilières, causés par des conventions comptables plus que discutables, et vous comprenez pourquoi les traders sont mieux payés que les infirmières, et pourquoi le PIB mesure aussi des richesses qui n'existent pas. Le PIB ne fait pas non plus la différence entre un pays égalitaire et inégalitaire, puisqu'il se contente de faire la somme de l'ensemble des revenus sans s'inquiéter de leur répartition. Il se trompe également dans les mesures liées aux évolutions de prix à cause du calcul nécessairement imprécis de l'inflation. Sans oublier que le choix arbitraire de l'année de référence qui sert à fixer les prix peut mener à des taux de croissance très différents. Pourtant, la croissance du PIB reste l'unique objectif de l'économie mondiale. Malgré tous ses défauts, la croissance du PIB est probablement devenue une fin politique en soi, plutôt qu'un moyen, parce qu'elle permet de faire naître l'espoir dans les yeux du plus grand nombre, et donc de se faire élire. En effet, la croissance du PIB permet de promettre à tout le monde, riche comme pauvre, actionnaire comme chômeur, que les revenus de chacun augmenteront. Récapitulons ce que nous avons appris sur le fonctionnement de l'économie. L'activité humaine dépend entièrement de différents services naturels fournis gratuitement par Dame Nature. Air respirable, eau potable, températures adéquates, ressources nombreuses, etc. Les sources d'énergie, principalement du pétrole, du charbon et du gaz, qui alimentent les machines et outils que nous stockons et utilisons pour produire des richesses, sont absolument indispensables. De la même manière, les sources d'énergie qui alimentent directement l'humanité, nourriture, sont également absolument centrales. Sans toutes ces sources d'énergie primaires que seule la nature peut nous fournir, aucune activité économique, aucun PIB n'est possible. Une partie du PIB permet la fabrication de richesses que nous stockons année après année. Les nouvelles richesses correspondent à celles que l'activité économique de l'année vient de produire, tandis que les anciennes richesses correspondent à l'ensemble de celles produites les années précédentes. Une partie de ces richesses, routes, ponts, usines, centrales électriques, machines-outils, ordinateurs, connaissances, etc., sont indispensables à l'activité économique. Une partie du PIB sert à l'entretien des richesses produites dans le passé. Sans entretien régulier, notre pile de richesses devient inutile. Une partie du PIB permet l'extraction d'énergie, nourriture et carburant, et de matières premières utilisées dans l'industrie. Sans ces activités, rien n'est possible. Une partie du PIB permet la mise en place de services dont certains sont essentiels. Une partie du PIB enregistre la prise de valeur d'un stock d'anciennes richesses. Non seulement cette prise de valeur n'est pas nécessairement justifiée, mais en plus, cela ne correspond aucunement à la création de nouvelles richesses. L'activité humaine engendre des dégâts sur l'environnement, pollutions diverses, changements climatiques, appauvrissement des sols, que le PIB ne comptabilise absolument pas.